Bonjour, je m'appelle Anthony Côté-Leduc, je travaille aux communications chez Équiterre et bienvenue à cette deuxième partie de balado sur les affaires qui brisent, mais surtout comment les réparer. Avec moi, j'ai deux machines indestructibles de la gestion des matières résiduelles. Amélie Côté, experte en réduction à la source chez Équiterre, et Hélène Gervais, experte en économie circulaire chez Recycle Québec. Rebonjour!
Rebonjour!
Bon là, j'aimerais ça qu'on parle de tous les moments où ça peut mal virer. Hein? J'ai l'impression que quand on fait l'acquisition d'un objet, genre une laveuse, c'est complexe de savoir à quel point elle va nous donner du trouble. Est-ce qu'elle va durer longtemps? Est-ce qu'on va pouvoir la réparer? Est-ce que je vais trouver des pièces? Donc, première étape là, à l'achat, là. Comment je fais pour savoir si ce que j'achète a de l'allure?
Oui, c'est une bonne question parce que c'est là que des fois tout se décide. Puis justement, en faisant le sondage Équiterre et Recycle Québec, on a pu voir un peu plus c'était quoi les comportements des Québécois, tant au niveau de l'achat, mais aussi de la réparation. Au niveau de l'achat, bien, on se rend compte que la plupart des gens vont se tourner vers des appareils neufs plutôt que d'occasion. Donc ça, c'est la première chose. Puis quand on achète, malheureusement, souvent on a peu d'informations sur la durée de vie de l'appareil. Est-ce qu'il va être réparable? Est-ce que les pièces détachées vont être disponibles à plus ou moins long terme si ça brise? Puis si on a l'information, des fois, c'est un défi de la comprendre, de la trouver. Puis on comprend les gens d'avoir un peu de difficulté à s'y retrouver puis faire des choix qui sont éclairés. On n'a pas toujours le réflexe aussi de se poser les questions sur la disponibilité des pièces détachées. Par contre, ce qu'on a remarqué avec le sondage, c'est que pour la plupart des Québécois, la réparabilité, c'est un critère quand même important au niveau de l'achat. Pour 3 Québécois sur 4, la réparabilité, c'est un critère qui compte. C'est supérieur à la moyenne canadienne, donc on peut quand même se réjouir là-dessus.
Mais on n'a pas d'informations là-dessus.
Très peu, très peu.
C'est inquiétant, puis... Comme consommateur et dude qui achète des trucs, comment je peux faire pour éviter les objets qui pètent facilement?
Bien, d'abord, je pense que de s'informer avant d'acheter, oui, il y a peu d'informations, mais quand même certaines sont disponibles en ligne. Savoir si l'objet est durable et à savoir s'il répond à réellement un besoin aussi. Hein. Donc, des fois, on n'a peut-être pas besoin, par exemple, d'un frigo qui nous donne l'heure, qui nous verse des verres d'eau, puis qui nous fait notre liste d'épicerie. Parce que plus c'est complexe, les appareils, plus ça va être difficile à réparer. Donc, on a ajouté des fonctions au fil des années. Puis, au moment de l'achat, bien, il y a plusieurs garanties qui sont disponibles. Puis ça, on va essayer de les démêler ensemble. Hein. Il y a d'abord la garantie du fabricant. La garantie du fabricant, c'est quand on garantit, par exemple, pendant un an, l'objet va fonctionner. Donc, réparer ou remplacer.
Mettons, la compagnie de laveuse me dit... t'es sur la garantie, dans le petit livret d'instructions, là, c'est souvent l'affaire qui est associée à l'appareil. Là.
C'est ça.
C'est la garantie du fabricant.
Ça, c'est la garantie du fabricant. Après ça, on a la garantie prolongée. Ça, c'est un produit financier. Donc, souvent, on va nous vendre à pression une garantie prolongée hein, de 3 ans. Généralement, c'est autour de 3 ans. Puis, c'est un montant qui peut aller jusqu'à 20-25 % du prix d'achat. Donc, c'est quand même un montant qui est important.
On voit souvent ça dans l'électronique. Hein?
Oui, particulièrement. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a aussi, en vertu de la loi... la garantie légale. Donc, n'importe quel objet qu'on achète devrait pouvoir servir à un usage normal pendant une durée qui est raisonnable.
Oh boy, j'entends les avocats arriver d'ici, là.
Oui, effectivement, c'est assez flou comme information. Par contre, les personnes qui ont eu des recours aux petites créances pour justement faire valoir leurs droits, ce qu'on constate, c'est que les juges vont souvent estimer qu'une durée raisonnable, c'est beaucoup plus que 3 ans. Donc, si on parle, par exemple, d'un frigo, le juge parlait de plutôt 12 à 15 ans de durée de vie. Donc, c'est beaucoup plus long que ce qu'on estime. Et donc, ça fait en sorte qu'on accumule les garanties alors que normalement, la loi nous protège. Mais ce qu'on ne sait pas, parce que moi, je ne l'ai jamais vécu, je ne sais pas pour vous. Normalement, quand on achète un objet, le vendeur est supposé de nous dire qu'elle existe la garantie légale. Mmh. Et je n'ai pas trouvé de personne qui avait vécu cette expérience-là.
Mais c'est du trouble, je ne me trompe pas. C'est du trouble, la garantie légale, la faire appliquer. Là. Comme tu l'as dit, c'est des poursuites qui ont eu lieu où est-ce que les gens ont eu gain de cause, mais le commun des mortels n'a pas le temps de poursuivre un détaillant ou un... un fabricant au quotidien.
Non, effectivement. Puis si le frigo ne fonctionne pas, on peut bien entreprendre un recours aux petites créances, mais en attendant, on a besoin d'aliments qui sont conservés. Donc, il faut simplifier ce processus-là et on pourrait s'attendre à ce que aussi la durée de vie des objets augmente au fil des années, parce qu'il y a quelque chose d'absurde à s'imaginer qu'on achetait un appareil électroménager avant, il durait 50, 60 ans.
Ah, ma grand-mère, hein? Ah, mon frigo m'a duré 50 ans. Hein? On l'a entendu, celle-là.
Et elle a raison, c'était des appareils qui étaient plus robustes. Et maintenant, avec toutes les avancées techniques et technologiques qu'on a, ben on a des objets où on est chanceux ou chanceuse que ça dure 10 ans, ce qui est quand même aucun sens.
Hélène, il n'y a pas aussi comme un moyen de s'informer de tout ça avant?
Oui, puis on en parlait juste avant qu'il y avait très peu d'informations, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est conscient de cet enjeu-là. Puis c'est pour ça que Recyc Québec a travaillé avec Protégez-vous. Protégez-vous a développé ce qu'on appelle une cote de réparabilité sur certains produits. Donc maintenant, tu sais, Protégez-vous, c'est un magazine qui informe les consommateurs, surtout au niveau de l'achat. Hein. Puis on sentait l'importance des consommateurs pour avoir des biens qui durent dans le temps, justement, là, qu'un frigo va durer plus longtemps. Donc, c'est de plus en plus intégré dans leurs tests de performance des produits, la question de la réparabilité, comme par exemple au niveau des aspirateurs, les barbecues, les cafetières. Cette liste de produits-là va s'allonger au fil des années. Puis, on parlait tantôt de s'informer. Oui, tu sais, il y a de plus en plus des fonctions ajoutées sur les appareils. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Évaluer nos besoins, première chose. Résister aux gadgets inutiles qui risquent peut-être de nous briser entre les mains. Puis, peut-être opter pour des modèles plus standards qui ont peut-être plus de chances d'avoir des pièces disponibles à long terme. L'achat local aussi est à privilégier. Peut-être ça va être plus simple de se tourner vers le fabricant si Absolument. On a acheté local. Donc, c'est des petites choses là, qu'on peut penser lors de l'achat.
Et bon, là, vous m'avez vraiment bien informé. Je suis équipé là, pour acheter le meilleur appareil possible dans le circonstance actuelle. Maintenant que je l'ai, mon objet, là, mettons mon frigo, là, comment je fais pour qu'il ne me brise pas dans les mains? Comment je fais pour prolonger sa durée de vie une fois que je l'ai?
Anthony, ça va te prendre du temps, de la volonté, puis peut-être un peu de vinaigre.
J'ai le vinaigre.
L'entretien des appareils, je comprends les gens, on a tellement de choses dans la vie, on est occupé, mais prendre ce temps-là pour entretenir nos appareils peut vraiment faire une différence sur la durée de vie de nos objets. Un peu comme on entretient notre automobile ou notre vélo, on va changer l'huile, c'est la même chose pour les objets qu'on a à la maison. Par exemple, un grille-pain. Enlever les miettes. Hein, Amélie, ton nouveau grille-pain. Donc, enlever les miettes avec la trappe en dessous. Un petit geste simple, mais qui peut faire toute la différence. Un téléphone intelligent, la plupart des gens en ont un.
Enlever les miettes aussi?
Non, pas mal. Il faut éviter les températures extrêmes, le trop froid ou le trop chaud. Je pense qu'on a ça un peu au Québec, ouais. Des températures extrêmes, donc on essaye de le ménager. La laveuse, ou laisser la porte ouverte après chaque brassée pour éviter la moisissure. L'aspirateur, pas attendre qu'il soit trop plein pour le vider, pour éviter que le moteur surchauffe. Donc, c'est des petits gestes d'entretien, mais qui peuvent vraiment avoir un impact positif. Parlant d'entretien, Protégez-vous, en partenariat avec Recyc Québec, on a publié un guide 100 trucs pour faire durer vos appareils domestiques. Donc, le guide est construit pour chaque pièce de la maison, quel appareil on retrouve dans la maison, puis comment on peut les entretenir. Donc, avec du temps, un peu de volonté, on est capable de faire...
Oublie pas le vinaigre.
Oui, le vinaigre.
Un peu de bicarbonate. Je pense.
Oui, exact.
Mais je suis curieux, Amélie, c'est quoi les appareils qui brisent le plus souvent? J'ai ma petite idée, là.
Au travers du sondage, on a appris donc le top 5 des appareils électroniques et électroménagers qui brisent. En premier, l'aspirateur. En deuxième, le téléphone intelligent. Je pense que personne n'est surpris ici. Ensuite, cafetière, machine à expresso. Quatrième, grille-pain et suivi du micro-ondes. Donc, on a quand même un bon top 5. Puis j'ai moi-même une petite histoire d'aspirateur. Hein. Ça m'est arrivé une fois d'acheter un aspirateur neuf et quelques mois plus tard, je devais aller changer les sacs en acheter d'autres, puis je suis retournée au magasin et le modèle n'était plus vendu, les sacs n'étaient plus disponibles et donc l'appareil ne pouvait plus être utilisé. Donc, quand on parle d'accès aux pièces, ça en est un bon exemple.
Mais là, c'est même pas une pièce de rechange, c'est une pièce pour le fonctionnement
exact.
Même de l'appareil. Là.
Non, c'est fou. Puis les objets brisent vraiment quand même tôt. Hein. On a appris que dans le quart des cas, les appareils déclarés comme ayant brisé avaient eu lieu, ça avait eu lieu le bris en moins d'un an après l'achat et seulement 15% plus de 15 ans. Donc, les appareils durent effectivement pas si longtemps que ça et c'est très tôt moins d'un an. Là, donc, généralement, c'est encore même sur la garantie du fabricant dans plusieurs cas. Là.
C'est un peu décourageant. Je me demande s'il y a comme pas un service, une raison culturelle de perception. On répète tellement que plus rien se répare. On en vient un peu à le croire puis à abandonner collectivement puis individuellement. C'est quoi les autres freins à la réparation?
Oui, bien, justement, le sondage a permis de voir un peu c'était quoi les principaux freins. Ils sont en trois catégories. L'argent, le temps, l'information. Mm-hmm. Donc, ce qu'on a surtout ressorti du sondage, c'est que les gens n'ont pas toujours les connaissances pour réparer par eux-mêmes. C'est tout à fait normal. Des fois, ça prend un expert pour pouvoir faire la réparation. Le coût de la réparation, des fois, qui est trop élevé par rapport à un appareil neuf. Donc là, ça devient moins intéressant de réparer si le prix n'est pas vraiment concurrentiel. Il y a une perception très forte que les appareils sont de plus en plus irréparables. Donc, les gens croient vraiment, comme on disait plus tôt, l'obsolescence programmée. Manque d'informations aussi sur la réparabilité, sur les options pour réparer, sur le coût et l'accessibilité des pièces détachées. Hein, tu sais, comme on disait, un sac d'un aspirateur, si on n'a pas accès au sac de remplacement, ça devient difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas juste des freins, il y a aussi des motivations.
Chance.
Des motivations à réparer.
T'as déprimé un peu, là.
Ben oui, ben on va essayer de te remonter le moral. Il y a trois choses qui ressortent. La plus élevée, c'est les bénéfices environnementaux, écologiques. Donc, les gens le font pour réduire le gaspillage, pour allonger la durée de vie de leurs appareils. Puis on voit cette tendance-là, surtout chez les jeunes, mais pas que. Il y a aussi une autre raison, c'est de faire des économies. Bien souvent, là, même si des fois le coût de la réparation elle peut être élevé, dans bien des cas, il ne l'est pas. Puis ça vaut vraiment la peine au niveau du portefeuille de faire de la réparation. Puis le troisième, l'accomplissement personnel, le plaisir, la satisfaction de réparer. Ça, c'est vraiment une belle raison aussi pour le faire. Puis ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une tendance vers l'auto-réparation. Un Québécois sur trois qui avait fait réparer le fait par lui-même chez lui à la maison. Mais la plupart se tournent encore vers des réparateurs professionnels qui sont disponibles.
C'est intéressant, l'auto-réparation, mais le gouvernement, il pourrait pas nous rendre la tâche un peu plus facile? Comment on pourrait encourager ça? Comment on pourrait rendre ça simple pour le plus de gens possible?
Bien, un des exemples qui nous inspire, c'est vraiment ce qui se fait en France. Hein. C'est un pays qui est précurseur là, par rapport au droit à la réparation puis à la lutte à l'obsolescence programmée. On y a instauré en 2021 un indice de réparabilité. Donc, c'est une note sur 10 qui est indiquée vraiment sur l'emballage de l'objet qui nous permet d'avoir de l'information à savoir si les conditions sont là pour qu'on puisse le réparer. Donc, on parle d'avoir accès aux pièces, aux outils, etc. Mm-hmm. Donc, ça vient vraiment motiver, influencer finalement l'achat et on pense que ça pourrait être fait sous forme d'un indice de durabilité, donc vraiment à quel point l'objet est durable, parce que ce qu'on veut au bout du compte, c'est que les objets durent de plus en plus longtemps en incluant le fait qu'ils soient réparables, mais qu'ils soient plus robustes en général. Et il y a également la question de financer les coûts de la réparation parce qu'on l'a vu, un des grands freins, c'est le coût. Et si on peut réduire cette facture-là directement au moment de l'opération de réparation, ça pourrait être intéressant.
On l'entend souvent, hein, ça valait plus la peine d'acheter neuf que de le faire réparer. Donc, c'est un levier intéressant que tu viens de nommer. Et la cote de réparabilité, ça prendrait quelle forme? Ça serait une note sur 10, un code de couleur? Ça peut être tous ces éléments-là?
Oui, bien c'est ça. C'est vraiment, dans le cas de la France, c'est une note sur 10 basée sur plusieurs critères. C'est de l'information qui est visible sur l'emballage. Donc, on a vraiment accès à ça au moment de prendre la décision d'achat aussi.
Puis, j'imagine que ça motiverait les fabricants. T'sais, si les gens achètent des appareils qui sont visiblement plus durables, il y aurait tout intérêt à avoir des appareils qui durent plus longtemps à eux autres aussi. Il n'y a pas une part de responsabilité partagée avec les fabricants aussi?
Oui, tout à fait. Puis le fait d'avoir accès à l'information sur la durabilité de l'objet, donc qui peut être une motivation d'achat, ça peut inciter les fabricants à faire plus d'éco-conception aussi. Donc, par exemple, de faciliter l'ouverture de l'appareil pour y retirer la plus petite pièce parce que le coût de réparation va être moindre aussi. Et ce qui a reçu le plus d'appui de la part de la population, c'est le fait d'avoir des appareils qui sont plus fiable, de meilleure qualité, avec un prix de réparation plus bas. Donc, les fabricants peuvent effectivement aller vers l'éco-conception et permettre l'accès aux pièces détachées aussi pendant un certain temps. Puis un autre élément facilitant, c'est que la réparation puisse être faite avec des outils qui sont plus standards. Donc, on a en tête des fois là, des tournevis très précis.
Tournevis, c'est toi la gros bout.
Donc, si on concevait les appareils pour pouvoir les ouvrir, les réparer avec des outils qu'on a à la maison, ça faciliterait beaucoup l'opération aussi.
Là, on a parlé des gouvernements, on a parlé des fabricants. Les gens peuvent, à la maison, moi, vous autres, on peut faire notre part aussi.
Complètement. Puis on le dit dans le balado, hein, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Si on résume là, concrètement, au moment de l'achat, on évalue nos besoins, puis on s'informe le plus possible pour faire des choix éclairés. Regardez les avis peut-être sur Internet.
Oui, puis moi, je veux l'indice de réparabilité. Là. Ça me
ben,
prend
y a
ça.
Il y a la cote de réparabilité de Protégez-vous en attendant. Qui nous permet d'avoir quand même un bon indice. Au niveau de l'utilisation, ben, entretien. On lit le petit manuel du fabricant là, que personne n'a le temps de le lire. Là, donc...
On vide les miettes, puis on ne met pas le cellulaire dans le toaster, c'est ça? J'ai peut-être pas compris.
Ben, c'est une température extrême, donc oui, on peut y aller comme
pas.
Ça. Donc, entretenir quand on utilise, ça peut faire toute la différence sur la durée de vie des appareils. Et si par malheur, ça brise, ben, de développer le réflexe de réparer, soit par soi-même, soit chez des réparateurs professionnels. Mais c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour notre portefeuille. Donc, on a tout intérêt à le faire.
Super. Donc, Hélène, Amélie, merci. Je crois qu'on est tous mieux outillés pour comprendre les enjeux sur la réparation, sur la réparabilité, qu'on va pouvoir reprendre le dessus, qu'on va pouvoir reprendre le contrôle, le pouvoir sur nos objets. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. En tout cas, chez Équiterre et Recycle Québec, on va travailler là-dessus encore un petit bout, je pense. Vous souhaitez suivre ce qu'on fait sur cette question-là? Ben, allez voir nos pages dédiées à cet effet. Tapez dans Google là, Équiterre ou Recycle Québec avec le mot réparation. Vous devriez trouver tout ce que vous avez besoin. À la prochaine!